Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 17 mai 2017. Aujourd'hui, j'aurai en entrevue Éric Leré qui a publié récemment un livre qui s'intitule « Le journal sans journaliste » ou « Le cinquième pouvoir des gens ordinaires ». Sans plus tarder, puisqu'il est des nôtres, accueillons Éric Leré. Éric Leré, bonjour.
Bonjour Éric Lantier.
Vous avez publié récemment un livre qui s'intitule « Le journal sans journaliste » ou « Le cinquième pouvoir des gens ordinaires ». Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce que c'est le cinquième pouvoir?
Ben, c'est le pouvoir du peuple. On va y aller directement. C'est-à-dire que le peuple, c'est-à-dire vous et moi, les gens ordinaires, ont cette capacité technologique d'avoir leur propre média et d'être leur propre média. Ça, c'est tout à fait nouveau dans l'histoire humaine. Si on compare l'arrivée de l'imprimerie par rapport au télégraphe ou par l'arrivée de la rotative qui a permis l'émergence des médias de masse et le numérique, donc avec autour surtout bien sûr d'Internet et de l'électricité, qui parle de révolution du tout en un, avec les différentes générations bien sûr d'Internet, on voit apparaître un pouvoir nouveau qui est celui de l'individu. Michel Serres disait une chose intéressante, il disait à chaque révolution de société correspond à une révolution de support. En fait, on voit depuis 200 à 300 ans, depuis les révolutions américaines, anglaises et françaises, que l'individu émerge du collectif et c'est accompagné par cette révolution technologique. Et aujourd'hui, on est en plein dedans et en particulier, on voit différents secteurs de la société civile et industrielle être touchés par cette numérisation. On voit émerger une société post-industrielle et moi, je m'attache à surtout analyser différents secteurs autour de l'imprimerie, qui sont l'édition, la presse, l'imprimerie et bien sûr l'enseignement qui est important. Et le journalisme, en fait, est un univers qui a eu du mal à apparaître au 18e, 19e siècle, qui s'est ensuite formalisé, c'est-à-dire qu'on a créé des écoles, on a créé un langage, une éthique, enfin, disons plutôt des pétitions d'intention, parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment respecté tout ça, mais on a essayé de faire au mieux, d'être honnête, parce qu'on parle toujours de subjectivité par rapport à l'objectivité, mais malheureusement, aujourd'hui, je dirais que ça s'est accentué avec la révolution numérique.
Ouais.
De plus en plus, le quatrième pouvoir, qui est une expression d'Edmund Burke, qui a été défini, c'était le célèbre critique de la révolution française, avait institué donc une expression, quatrième pouvoir, pour définir le pouvoir de la presse par rapport au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Exact.
Donc c'est le cinquième pouvoir des gens ordinaires, c'est cette nouveauté de pouvoir par rapport au quatrième qui avait tendance, jusqu'en les années 80-90, à dominer un peu le monde politique. Un homme politique ne pouvait pas prendre la parole s'il n'y avait pas les médias présents. Quoi. Aujourd'hui, on n'est plus là. Trump, par exemple, se passe largement de la présence des journalistes et s'exprime directement aux 27 millions de Twitter, de gens qui les suivent sur Twitter en leur parlant directement. Donc il y a une crise de la médiation très, très forte. Et cette crise de la médiation, tous les secteurs sont touchés, mais en particulier dans le journalisme, qui est vraiment un secteur important de la vie démocratique, où on essaye toujours de conserver le droit de savoir, le droit à l'information de chaque citoyen qui doit régulièrement aller élire ses représentants. Et donc, il faut qu'il soit informé en conséquence, et on le voit au Québec avec les libéraux ou dans différents pays, on voit bien que la corruption, que le respect de la parole donnée, enfin toutes ces valeurs qu'on avait tendance à valoriser dans une démocratie où le travail doit amener à un résultat et qu'on doit toujours faire des efforts pour aller au bout d'objectifs, tout ça, c'est des valeurs qui sont malheureusement remises en cause parce qu'on est face à alors les gens en ont marre ils se réfugient dans les médias sociaux et voilà. Le cinquième pouvoir des gens ordinaires en quelques mots.
Oui, mais justement vous avez touché un point intéressant, vous dites que l'individualiste émerge du collectif. En quoi c'est en lien avec un concept que vous avez touché dans votre livre? Vous dites que les gens sont le message. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai fait une analyse c'est un peu à la cause de mon père qui était journaliste. Donc lui, il m'a mis dans les mains comprendre les médias de McLuhan lorsque j'ai fait l'école estienne, je suis sorti de l'école estienne, et c'est ce qui m'a décidé à venir au Canada, au Québec, pour étudier les communications. Donc je me suis mis à étudier les écrits de McLuhan et j'ai suivi profil journalisme à l'UQAM et la maîtrise en communication. Et j'ai appliqué, à l'époque, j'étais vraiment fan de McLuhan, mais un fan critique. Et donc, pendant 60 ans, on va dire même jusqu'à nos jours, la façon d'aborder la communication a été monopolisée par l'approche de McLuhan qui parlait de medium is message et de où le medium, donc la technologie, le média, la télévision, alors bon, bien sûr, peu importe les médias ou les médiums, ils considéraient que c'était là qui était le porteur du sens et surtout du message. Et moi, j'ai une formation de en psychosociologie de la communication qui donc intègre beaucoup plus le relationnel et en particulier les travaux de René Genevoix à l'UQAM sur le concept de en fait d'amour et de haine, enfin d'amour et de, c'est-à-dire d'intégrer la réflexion, de prendre en compte l'individu et sa relation. Donc ça veut dire que il sera plus influencé par son père, sa mère, ses amis, ses réseaux sociaux, ses réseaux professionnels ou amicaux, enfin vous voyez, donc le relationnel est plus important. Donc je me suis mis à critiquer, et ça fait longtemps parce que j'ai créé mon modèle en 2005, j'ai créé un nouveau modèle autour de People is the Message. Donc les gens sont le message pour différentes raisons. Donc bien sûr l'émergence de l'individu par rapport au collectif qui n'a fait que s'accentuer et s'accélérer. Une troisième mondialisation après celle du Moyen-Âge et du 19e siècle, on est dans une mondialisation. Et bien sûr cette transition entre le monde industriel et le monde post-industriel où l'individu a beaucoup plus de place. Alors, voilà. Donc, alors les gens ordinaires, ça vient de George Orwell, qui est un monsieur qui m'a beaucoup influencé, mais je pense qu'il influence beaucoup avec son livre sur 1984 et La ferme des animaux. Il a fait une analyse brillante de la société de l'époque. On parle du fascisme, du nazisme et bien sûr du communisme. Et les gens ordinaires, c'est ça. C'était tout le monde, ces gens un peu qui subissent tout ces systèmes totalitaires, autoritaires sur une base religieuse ou idéologique. Et je trouvais ça important de voir que la technologie, enfin, on l'a vu par exemple à la révolution iranienne récemment, on a pu assister, avec difficulté, mais beaucoup plus à ce qui se passe réellement dans la vie des gens et comment ils sont brimés, etc. Donc, dans notre quotidien, nous en Occident, qui est un peu le moteur du développement, car c'est un peu la locomotive du train de la modernité, c'est les gens ordinaires qui s'aperçoivent que vous avez les journalistes qui donnent leur opinion systématiquement, donc ils se situent devant l'information et non pas derrière. Pourquoi leur opinion serait plus importante que la mienne, enfin, que la sienne, enfin, parce qu'ils oublient qu'avant d'être journalistes, ils sont d'abord des citoyens comme les autres. Alors, People is the Message, c'est une forme de message humaniste fondamental en disant l'homme a une conscience, la femme aussi. Je rappelle ça avec une pointe de cynisme, parce que on a l'impression que on laisse faire l'islam radical se développer partout dans le territoire du monde, qui remet en cause les combats d'hier de nos mères et de nos grands-mères. Mais le message, il est approprié, il est le propre de chaque individu, peu importe son identité biologique. Et j'ai aussi institué un modèle sur le fait du copiage, de la complémentarité et du remplacement. Et ça, on le trouve dans différents secteurs. Si on prend l'imprimerie, par exemple, qui est un modèle qui a mis 50 ans avant de remplacer les calligraphes, au début, les imprimeurs, donc les nouveaux médias de l'époque, copiaient les anciens. Eh bien, on assiste à la même chose aujourd'hui. Et on voit que petit à petit, on est dans un processus qui a été d'abord dans les années 80, d'un processus de copiage. On avait tendance à faire ce qu'il y avait dans le print. On copiait et on mettait sans autre innovation et créativité la même chose sur le web. La deuxième phase a été plus une complémentarité, c'est-à-dire dans le sens où on a intégré les deux supports en même temps, on voit ça avec le devoir et puis avec la presse, mais aussi on a intégré de plus en plus le commentaire et non pas comme avant on faisait, c'est-à-dire on envoyait un courrier des lecteurs qui paraissait peut-être 3 mois plus tard, quand il paraissait. Mais là, c'est devenu presque une sorte d'institution parce que on l'a vu dans la photographie, dans le texte, dans l'image avec YouTube. C'est devenu un élément économique, c'est-à-dire que ça a été intégré petit à petit au modèle économique des médias. Et donc le remplacement, c'est-à-dire qu'on assiste comme par exemple la Presse Plus, où on quitte complètement le monde de l'imprimé, donc de l'analogique, on quitte même cette complémentarité en faisant, bon, ça, il y a quand même une coexistence, parce qu'on peut pas rompre non plus comme ça du jour au lendemain. On peut pas sortir de 600 ans de civilisation de l'imprimé, comme je l'appelle. Il y a des résistances culturelles, on le voit dans le monde du livre, on le voit dans le monde de l'édition, ça je pourrais vous en parler un moment, mais disons que il y a des résistances, on va dire ça tout simplement. Ouais. J'ai appelé ça des résistances face au nouvel humanisme numérique contemporain.
Tout à fait. Mais dites-moi, monsieur Leray, on ne peut pas séparer le cinquième pouvoir des médias sociaux. À l'heure actuelle, c'est impossible de les séparer. Maintenant, Hervé Fischer, dans votre livre, nous dit que ce sont les médias sociaux qui créent ce que j'appelle notre conscience augmentée, devenue planétaire et éthiquement exigeante. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration-là?
Ben, écoutez, on retrouve la même logique avec Derek de Kharkov, et puis bien sûr qui était l'élève de McLuhan, sur le village global. Ça, là-dessus, je pense que McLuhan a su mettre le doigt là-dessus, et Hervé Fischer, qui a été un des pionniers dans le numérique au Québec, en particulier avec la chaire sur le numérique à l'UQAM, a raison de penser et de voir que, en fait, à la différence d'avant, c'est vrai, il le dit d'une façon assez sympa, parce que je connais bien, je suis passé à travers la Suisse, mais comme je suis béarnais, donc j'ai aussi des pieds dans la montagne, c'est-à-dire que on avait problème, c'est qu'on ne connaissait pas la réalité d'un village à l'autre, d'une vallée à l'autre, mais on a ça aussi en Bretagne, le bord de mer ne connaissait pas la réalité des gens de la terre. Eh bien, grâce aux médias sociaux, en fait, la couverture, c'est un peu le principe même d'Internet. C'est-à-dire que c'est un système qui a été fondé par des militaires sur un système hiérarchique pour, en fait, remettre en cause le modèle hiérarchique sur lequel était basé la plupart des médias qui sont créés au 19e siècle. On parle de la télévision, on parle de cinéma, on parle de la radio, on parle de la presse. On imprime, on diffuse. C'est-à-dire, on crée quelque chose. Donc, on voit bien émerger trois modes de production. Avec l'imprimerie, on imprimait, on diffusait. Avec Internet, on a eu tendance donc à diffuser et à imprimer. Mais ce troisième niveau dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le tout numérique, eh bien, on est dans le flux numérique constant. Donc, on n'est plus dans une logique d'intermédiaire, analogique. Alors, ça a un impact justement sur la couverture. Écoutez, là, on vient, par exemple, c'est un peu bête, mais on vient de découvrir qu'il y avait encore 500 millions d'hectares de forêt qu'on avait complètement passé à l'as, qu'on vient de redécouvrir, comme s'ils étaient morts, mais qu'ils viennent de réapparaître. Non, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que grâce aux médias sociaux et tout ce qui va avec, Google Maps, par exemple, ce genre de technologie, enfin, c'est quand même des algorithmes, des robots, nous permettent, en fait, de couvrir plus le territoire de l'espace planétaire, donc la réalité humaine par prolongation. Alors, après, la conscience augmentée, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème, c'est que on assiste quand même à un massacre, à un génocide des chrétiens d'Orient depuis 20 ans. Là, on voit que la conscience augmentée, et sert à quoi? Mais on a assisté aussi en direct, pratiquement dans les médias, au génocide au Rwanda, 900 000 morts. On assiste donc actuellement à ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, enfin toutes sortes de choses. Alors oui, il y a une conscience augmentée, je suis d'accord avec ce constat. Le problème, c'est que il y a encore du boulot, c'est-à-dire sur la façon d'utiliser cette conscience augmentée et de sauver en fait l'humanité, qui est passée quand même en un siècle d'un milliard à 8 milliards d'individus. Donc oui, il y a du progrès. Oui, on vit plus longtemps. Mais il y a quand même des gros problèmes encore de coexistence de différentes religions, de différents pays. Il y a quand même encore des niveaux de développement qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous avez des centres avec des périphéries, sans être péjoratif dans ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont intégré, par exemple, la femme ou qui ont intégré une constitution où d'abord on juge un homme par rapport à sa conscience et non pas par rapport à son statut religieux ou pas. Ça, le problème de la charia sur les 57 pays musulmans dans le monde, à part peut-être le Maroc ou la Tunisie, quelques pays comme ça, on voit bien que c'est remis en cause en Turquie, eh bien, la notion de conscience, la notion d'individu n'existe pas. C'est-à-dire que c'est toujours les constitutions fondées sur un livre, le religieux, donc le Coran, qui fait que comme ça vient d'Allah, c'est parfait, donc ça ne peut pas être critiqué. Alors que la constitution démocratique, par définition, c'est pour ça qu'on fait toujours des lois et qu'on remet en cause toujours constamment ces lois, parce que c'est à l'image de l'homme, il est perfectible et faillible, mais aussi c'est pour lui que voilà. Alors on revient justement aux médias, c'est une conséquence de cette évolution de l'individu, de la conscience, moi je pense que c'est surtout plus spécifiquement la découverte de la conscience qui a abouti à la découverte de l'individu. Et les médias, la technologie suit aujourd'hui. Et ça, c'est ça que ne supportent pas les différents pouvoirs.
Mmh, tout à fait. Mais dites-moi en 30 secondes, puisque l'émission tire à sa fin, est-ce que vous considérez, puisque la population ne voit plus la presse comme un contre-pouvoir au service du public, considérez-vous que la population a perdu confiance envers les journalistes?
Oui, je pense qu'ils ont perdu confiance dans la caste, parce que le problème du journalisme, c'est que ça s'est un peu endormi sur ses lauriers et que c'est devenu une corporation, comme on a aussi au Québec, dans différents secteurs, et qu'on voit bien tous les colloques, tous les écrits, et même le dernier livre sur la cinquième pouvoir par Marc-François Bernier, sont des journalistes qui défendent leur bistec. Et le problème, c'est que... Alors, certains ont une éthique et essayent toujours de défendre l'intérêt, mais on a vu les différentes couvertures médiatiques. Je ne sais pas si les journalistes savent ce que c'est, par exemple, d'être innocent avant d'être coupable, par exemple. Écoutez, coup sur coup, on a vu 3-4 histoires de viol qui sont passées à la une, mais alors où on n'a à aucun moment respecté l'anonymat autant des victimes que des potentiels agresseurs. Mmh. On a mis ça en direct. Il y a plein la façon dont on couvre l'actualité américaine, ou celle qu'on couvre. C'est à peine si les journalistes ne disent pas moi, je vote pour lui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a à faire de savoir son opinion? Il est là pour mettre les faits. Et les gens en ont marre. Je pense que les gens en ont réellement marre de voir les gens, des journalistes, se prendre pour quelqu'un d'autre et donner leur opinion systématiquement sur tout ce qui se passe. Et même entre eux, c'est-à-dire que dans les émissions, ils s'invitent entre eux. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'inviter un spécialiste, ils vont inviter un journaliste spécialisé d'eux. Et puis voilà, donc ça devient un monde à part. Et donc, ils se sont éloignés des gens et de leur réalité. On l'a vu avec l'élection américaine, mais on le voit dans d'autres élections, Québec, au Canada, etc.
Excellent. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on dispose. Et j'invite les auditeurs à vous procurer votre livre qui s'intitule « Le journal sans journaliste » ou « Le cinquième pouvoir des gens ordinaires ». Alors, merci beaucoup, M. Leray, d'avoir pris part à ce tour d'horizon.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Éric Leray qui a publié récemment un livre qui s'intitule « Le journal sans journaliste » ou « Le cinquième pouvoir des gens ordinaires ». Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.